C'est la rentrée pour Apple qui a présenté un gros paquet de nouveaux produits en début de semaine. Apple Watch, AirPods, iPhone, il y en avait pour tous les goûts. Le gros morceau était évidemment la nouvelle fournée de téléphones, l'iPhone 16 ayant gagné deux boutons, là où l'appareil photo du Pro s'améliore. Les téléphones seront en précommande vendredi 13 septembre pour de premières livraisons prévues le 20. Cupertino n'avait pas oublié l'Apple Watch avec une Series 10 qui change de look pour gagner un écran encore plus imposant. Les AirPods 4 sont venus rebattre les cartes dans l'entrée de gamme grâce à deux modèles avec ou sans réduction de bruit. Toutes ces nouveautés ont-elles convaincu l'équipe de MacG? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour débriefer ce grand keynote, j'ai le plaisir de recevoir Anthony qui va se faire une joie de tester l'iPhone 16 Pro. Salut Anthony.
Salut Félix, salut à tous.
Et je suis également avec Nicolas qui va de son côté prochainement jouer avec les AirPods 4. Salut Nicolas.
Salut Félix, bonjour tout le monde.
Alors, est-ce que vous avez eu le temps de vous remettre de ce keynote?
Non.
Qu'est-ce que vous avez pensé de l'événement? Non. Pourquoi? Non, ouais, est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont plu? Envie de sortir la carte bleue pour un truc,
Nicolas? Ça dépend, on sort la tienne?
Non, ça va être compliqué. On va pas acheter beaucoup de choses.
Moi je pense que la carte bleue va rester bien sagement dans mon portefeuille aussi.
Bien au chaud. Ah, même pas voilà. Un iPhone 16 Pro, je sais pas quoi.
Oui, toute option, 1 Tera, max.
Oui, voilà, au moins.
Ah, j'espère que mon patron va être gentil par contre, parce que moi j'ai 3 générations de retard sur l'iPhone.
Ah, oui, alors,
du coup, c'est sympa, j'ai plein de choses à découvrir.
Ah, il serait temps, ouais.
Bah ouais, la Dynamic Island, l'écran toujours allumé, le bouton d'action, et même le nouveau, comme tu disais, là, le bouton pour l'appareil photo, on va en reparler. Ouais. Mais sinon, pour répondre sur le keynote de manière plus générale, bon, c'était pas un grand événement, on va dire. Je l'ai trouvé assez long. Il y avait pas mal de choses qui ont été répétées de la WWDC, donc pour nous, qui baignons dedans, c'était un peu répétitif. Ouais. Et puis c'est vrai que le côté matériel, il n'y a pas eu énormément de changements. Et c'est triste parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 10 ans, pile, en 2014, c'était le keynote où Apple avait présenté son Apple Watch. Oui. Et surtout, c'est la fameuse année où on a eu l'album gratuit de U2.
Oui.
Quel beau cadeau. Et encore mieux, parce que j'ai revu l'extrait récemment, j'avais oublié, mais le mieux, je trouve, c'est la comédie qui avait été faite entre Tim Cook et Bono, où ils faisaient semblant de discuter avant et de négocier. Quel grand moment, c'est vrai qu'en comparaison...
C'est quoi ça? C'était une vidéo pendant le keynote ou c'était un truc sur scène?
Ah non, c'était en live, après le concert. Et oui, à l'époque, il y avait un concert de U2. Et après, avec Bono et Tim Cook, soi-disant, ils discutent « Ah, moi j'aimerais bien offrir l'album Maximum, machin. Ah, moi j'ai l'iTunes Store. » Vraiment, très faux.
Ah ouais, ok. Bah, j'ai regardé ça sur YouTube.
Merci pour le coup de vieux, Nicolas.
Et toi, Anthony, t'en as pensé quoi du keynote?
Un peu comme Nicolas, et du coup, je vais le soutenir dans sa quête d'un nouvel iPhone cette année. Effectivement, il y a eu quelques longueurs, mais qui peuvent se comprendre. Là, c'est le keynote de la WWDC, c'est un keynote pour nous. Le keynote de l'iPhone, c'est un keynote pour le grand public. C'était quand même intéressant de les réécouter parler d'Apple Intelligence. Tu sens qu'en 3 mois, ils ont eu le temps d'affiner un peu leur argumentaire, ça se tenait un peu mieux. C'était un peu plus anglais, un peu plus pointu. Après, heureusement ou malheureusement pour nous et pour nos lecteurs qui filtrent pas le tag rumeur dans leur application favorite, on savait un peu tout, donc on n'a pas été, on n'a ni été surpris ni été déçu.
Ouais.
On a même eu quelques surprises parce que quelques rumeurs se sont plantées dans les grandes largeurs. On voit que Apple fait la chasse aux sources de Mark Gurman notamment. Donc non, c'était pas très surprenant, mais enfin il y a rien de bien, enfin il y a rien de mauvais quoi.
Oui.
C'est juste la litanie des successions des keynotes annuelles qui est un peu usante. Voilà. Nicolas qui fait son vieux con et qui parle d'un truc qui s'est passé il y a 10 ans. C'est sûr que quand c'est
ton. On s'abusait à l'époque.
Non mais oui. Mais c'est sûr que quand c'est ta 18e génération d'iOS et ta 17e génération d'iPhone, la surprise est un peu émoussée.
Oui, ouais, je comprends bien. Apple a ouvert le bal avec la Series 10 qui inaugure un nouveau design avec un écran plus grand. La dernière fois que c'est arrivé, c'était sur la Series 7, ce qui remonte à il y a quelques années. Nicolas, est-ce que ça te donne envie de changer ta Series 9?
Bah, pas vraiment, non. C'est quand même finalement une mise à jour assez mineure. Hein. Comme disait Anthony, il y a eu des rumeurs bien plus impressionnantes. On parlait à un moment d'une Series 10 qui aurait été écrite comme l'iPhone 10 avec un chiffre romain et qui aurait pu être une évolution majeure avec un tout nouveau design, etc. Finalement, c'est globalement la même idée qu'avant. Alors, c'est plus fin, c'est ça la plus grosse différence. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse le plus par curiosité. J'aimerais bien l'avoir en vrai. Parce que c'est vrai que la Series 9 que j'ai, je la trouve trop épaisse pour dormir. C'est vraiment le truc qui m'ennuie, elle se prend tout le temps partout, etc.
Ah ouais.
Mais je suis pas sûr que la finesse, ça changerait grand chose, ce qu'ils ont gagné cette génération. Enfin bon, à voir. Ils ont un peu agrandi aussi l'écran, à tel point maintenant que la plus petite, c'était la plus grande d'avant, c'est rigolo ça.
Ouais.
La plus petite fait 42 mm officiellement. Donc ça, au tout début, bah, c'était la grande qui faisait 42 mm. Et la grande maintenant fait 45. Ils ont remplacé aussi l'acier inoxydable sur le haut de gamme par du titane. Il y a des nouvelles teintes d'aluminium. Bon, ça, c'est la routine, on va dire.
Ouais.
Et à l'intérieur, il y a 2-3 trucs, mais c'est quand même, faut chercher. Hein. C'est un peu comme ça tous les ans, d'ailleurs, maintenant, avec l'Apple Watch. Alors là, on a l'écran qui est plus lumineux quand on le regarde de biais. Je demande à voir, mais ça m'a jamais vraiment gêné jusque-là.
Bon.
Et t'as plusieurs fonctions qui viennent de l'ultra en fait, donc le haut-parleur qui peut lire de la musique, le capteur de température d'eau et celui qui mesure la profondeur pour nager. Donc ça voilà, c'est des trucs qui étaient réservés à l'ultra maintenant, qui sont aussi disponibles sur la Series 10. Et toujours à l'intérieur, donc il y a une puce S10, alors on s'attend à une évolution ben, comme tous les ans, puisque l'année dernière c'était une S9, mais d'après ce qu'on croit entendre, c'est soit très très mineur, soit carrément la même chose que la S9. Donc il ne faut pas s'attendre à des grosses nouveautés de ce côté-là, la puce principale.
Ouais.
Et d'ailleurs, le suivi de l'apnée du sommeil, qui est une des grosses nouveautés de l'année, n'est pas du tout exclusive aux nouvelles montres. Donc ça montre bien que finalement, ça, c'est pas une évolution. C'est plus sur le format extérieur, ce qui reste intéressant, mais voilà, sur l'intérieur, ce n'est pas une grosse mise à jour.
Ah, je suis assez déçu que les notifications d'apnée du sommeil ne viennent pas sur ma Ultra, qui n'est pourtant pas si vieille. Je pensais qu'elle serait éligible, mais non, même pas.
Oui, il faut vraiment, bah, il faut cette puce là, la S9 ou S10, qui voilà, ça a l'air d'être le truc qu'il faut.
Et vu que tu as une S9 depuis un an, tu te sers un peu du geste au fait, j'ai oublié le nom, le double tap là, ouais.
Oui, non, j'ai non. utilisé pour le test et j'ai relu récemment ce que j'avais écrit et j'étais très sceptique à l'époque en disant peut-être qu'il faut du temps, on va voir, mais non, c'est pas très fiable, donc très souvent tu dois le faire plusieurs fois. Même quand c'est fiable, c'est-à-dire même quand il identifie le geste, en fait c'est vachement long. T'as une sorte d'animation qui s'affiche après, enfin, tu sens que vraiment ils veulent être sûrs que t'as bien tapé deux fois, etc.
Ouais.
Et donc à la fin, non. Si vraiment j'ai besoin de toucher l'écran en ayant les deux mains prises, je fais comme avant avec le nez.
Okay.
C'est idiot, mais ça marche mieux que ça ce geste-là. Ouais, donc non. Pour moi, c'est intéressant comme idée, mais je trouve que c'est raté. Ça, c'est pas convaincant, ça vaut pas le coup de changer de montre pour ça.
Oui, ok. Contrairement à ce qu'on pouvait croire, Apple n'a pas annoncé d'Apple Watch SE 3. Ils se sont contentés de baisser le prix du modèle actuel qui tombe sous les 250€. On n'a pas non plus d'Ultra 3, Apple ayant simplement annoncé un nouveau coloris noir, donc pour l'Ultra 2. Anthony, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une Ultra 2 en 2024?
Bah, le problème, c'est que je ne suis pas certain que ça valait le coup d'en acheter une en 2023. alors, j'ai quand même beaucoup écrit qu'il fallait ralentir quand on parle du triptyque, réduire, recycler... et donc si Apple est sérieuse sur l'écologie comme elle le dit, à un moment ou un autre il va falloir qu'elle réduise, donc bon, ils ont réduit. Il y a une génération qu'on saute, donc on va pas s'en plaindre. La finition noire, elle était réclamée. Moi je me souviens, j'ai eu une Apple Watch série 5 édition en titane noir. Ça reste la meilleure Apple Watch que j'ai eue, donc le titane noir Apple sait faire. Le bracelet à maille milanaise en titane, qui est un truc qui est quand même compliqué à faire. C'est déjà compliqué à faire en acier, mais en titane, ça l'est exponentiellement plus. Avec une boucle façon parachute, ça a l'air quand même sympa. C'est la boucle parachute, c'était quelque chose qu'on avait vu sur les Omega James Bond. Donc ça faisait déjà montre de cosplayer là encore un peu plus. C'est quand même sympa quoi. C'est pas la pire manière de ne pas mettre à jour un produit, si tu veux.
Oui,
et puis il y a aussi une version Hermès avec un très joli bracelet et puis un cadran numérique, le premier cadran numérique de l'histoire d'Hermès, qui est quand même sympa. Mais, parce que je peux pas dire sympa sans mettre mais derrière. Le problème de l'Apple Watch Ultra 2, c'est qu'elle se distinguait de l'Ultra 1 presque uniquement par du logiciel, en fait. Il n'y avait pas vraiment de raison matérielle de changer le chiffre. Tu parlais de l'apnée du sommeil. Il n'y a rien qui empêche, techniquement, l'Apple Watch Ultra, première du nom, de t'envoyer ces notifications-là. Je vais même aller plus loin. Il n'y a rien qui empêche l'Apple Watch Series 3 de le faire, à vrai dire. Et on a des montres Weezings qui valent trois fois moins cher, qui sont tout à fait capables de le faire. Mais voilà, Apple te réserve ça à l'Ultra 2. On voit encore comment il se sert du logiciel de manière très artificielle pour créer des effets de gamme. C'est une mesquinerie un peu difficile à avaler quand, par ailleurs, sur le plan matériel, ils ont des choses qui sont toujours pas là, qui devraient être là. Je pense notamment à la prise en charge du protocole ANT. Quand on dit la montre Ultra, c'est une montre pour les gens qui font du sport, bah, peut-être que prendre le protocole qui est utilisé par plein d'accessoires sportifs, ce serait quand même pas mal. Mmh. Et donc, s'ils avaient voulu faire une mise à jour, ça aurait été vachement plus intéressant de mettre une puce ANT que de faire semblant de dire que celle-ci est capable de détecter l'apnée du sommeil et pas les autres.
Après ce petit renouvellement qui ne réinvente pas la roue, Apple a abordé le sujet des AirPods. Les AirPods 4 viennent donc chambouler l'entrée de gamme avec une déclinaison en deux modèles, avec ou sans réduction de bruit. Pourtant, les différences ne s'arrêtent pas là. Nicolas, est-ce qu'elle n'est pas un peu confuse, cette nouvelle gamme d'AirPods 4 ?
Eh bien, oui. C'est vrai que on a deux AirPods 4 qui ont le même nom, sauf qu'il y en a un qui est avec réduction active de bruit et l'autre non.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça paraît un peu compliqué. Il faut se rappeler qu'ils succèdent en fait à deux AirPods différents, parce que donc il y a les AirPods 3 qui étaient sortis il y a 2-3 ans, mais les AirPods 2, qui est daté d'avant, étaient restés au catalogue pour l'entrée de gamme. Donc maintenant, on a les AirPods 4 tout court qui remplacent les AirPods 2 et les AirPods 4 avec isolation active qui remplacent les AirPods 3. C'est un peu ça l'idée. Quand on regarde la gamme d'un point de vue purement chiffre, c'est assez cohérent. On commence à 149€. On a un modèle intermédiaire à 199€, donc les AirPods 4 avec isolation. Et puis après, on monte aux AirPods Pro 2 à 279€. Parlons pas des AirPods Max. Mais voilà, on a une gamme assez... assez clair, mais maintenant pour choisir le bon modèle entre les deux premiers, ça va pas être simple. Alors, comme tu dis, il y a la réduction de voix, de réduction active, ça c'est dans le nom, mais quand on regarde, ils sont assez proches, hein, c'est les mêmes designs, il y a même la même puce H2 à l'intérieur, moi je trouve ça assez étonnant à la limite, pourquoi c'est la même, donc c'est bien, c'est la plus récente aujourd'hui, elle apporte l'audio spatial, personnalisé si on veut, elle isole la voix pendant un appel. Tout ça, c'est commun et tout le monde l'a. Après, il y a des fonctions en plus sur le modèle plus cher, comme la réduction active du bruit, le mode transparence qui augmente au contraire les bruits environnants, l'audio adaptatif qui combine les deux, et autre particularité, il est aussi capable d'identifier les conversations pour mettre en pause la musique automatiquement. Donc tout ça, on voit bien, j'imagine qu'il y a des microphones en plus sur le modèle le plus cher, donc c'est assez logique. Là où je trouve que ça devient un peu plus bizarre, c'est que le boîtier de charge lui-même et pas le même, même s'il ressemble physiquement. Donc sur la version la plus chère seulement, on a la charge sans fil et on a un haut-parleur qui est utile quand on veut retrouver le boîtier. On peut le faire sonner depuis l'app localisée. Le modèle de base, donc il n'a pas ces deux choses-là. Il faut le charger uniquement en USB-C. Et si on l'a perdu, tant pis pour vous. En tout cas, vous aurez plus de mal à le retrouver. Donc on verra avec les tests, parce que toute la question, c'est un peu de savoir que vaut l'isolation active sans isolation passive. Faut savoir sur les AirPods Pro 2, donc c'est des écouteurs qui rentrent dans l'oreille et qui ferment le conduit auditif physiquement, et ça apporte énormément d'isolation. En fait, l'isolation passive est une grosse partie de l'isolation tout court. Ouais. Donc là, on va devoir s'en passer, on va voir ce qui va rester. Mais si elle est efficace, même si elle n'est pas aussi efficace, elle ne le sera jamais, mais même si, admettons qu'elle soit efficace, c'est vrai que je me dis que économiser 50€ pour perdre ça et perdre les quelques fonctions en plus, c'est... Ça paraît pas un bon plan, mais bon, on verra, les tests nous diront ça. On verra. Juste pour terminer, il y a une autre différence sur ces AirPods 4 par rapport à tous les autres. Ils n'ont pas de câble de charge, donc c'est la première fois dans la gamme d'écouteurs. Donc les boîtiers, ils ont un port USB-C, alors on va dire c'est le standard. C'est celui des iPhones maintenant. Si tu as un iPhone récent, tu as un câble USB-C fourni par Apple, donc tu peux charger tes écouteurs avec, certes. Mais il y a quand même beaucoup d'iPhone Lightning encore en circulation. Il y a beaucoup de gens qui n'ont sans doute que cet iPhone Lightning sous la main. Donc eux, surtout s'ils prennent le modèle entrée de gamme, parce qu'on peut imaginer que ceux qui veulent économiser n'ont pas forcément le dernier iPhone et n'ont pas forcément de Mac ou quoi, ils vont se retrouver avec un appareil qu'ils ne peuvent pas forcément charger chez eux sans ajouter les sous pour le câble. C'est un peu radin, ça, quand même.
Ouais, carrément. Nicolas ne veut pas en parler, mais Apple a aussi présenté du neuf pour les AirPods Max. Il ne s'agit pas d'une vraie V2, mais d'une simple mise à jour pour le casque qui gagne juste de nouvelles couleurs, un port USB-C. Anthony, Apple a fait le service minimum pour son casque et est quand même vendu pas loin de 600€, non ?
Je tiens à dire aux gens qui nous écoutent que si Félix m'avait donné la question sur les AirPods 4, j'aurais dit du bien des AirPods 4.
Mais je n'ai pas dit du mal.
Qui m'a donné que des questions sur des appareils pourris. Et donc, encore une fois, je vais passer pour quelqu'un de triste, alors que non, en fait. Pas du tout. Non, mais oui, enfin, service minimum. En fait, ils redéfinissent ce que ça veut dire le mot minimum, parce que c'est Apple, et qu'il faut aller toujours plus loin dans le superlatif. Donc là, c'est le superlatif du minimum, c'est le mini-minimum. Il n'y a pas de puce H2 dans ces AirPods Max. En fait, ils ont pris les stocks d'AirPods Max qui restaient à l'usine, ils ont dessoudé le connecteur Lightning, ils ont mis le connecteur USB-C à la place, et ils ont appelé ça les nouveaux AirPods Max. Ouais. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous avez l'info en exclu dans le podcast de Mac Génération. Quand t'as pas la puce H2, t'as pas la détection des conversations. C'est quand même embêtant pour un casque, parce qu'un casque, figurez-vous que c'est plus difficile à retirer que des écouteurs. Donc quand on vous parle... Bon, il n'y a pas d'audio adaptatif, c'est un peu embêtant pour un casque, encore une fois, parce qu'un casque, figurez-vous que ça vous coupe un peu plus du monde, donc quand vous n'avez pas d'audio adaptatif pour remettre du monde dans vos oreilles, quand vous manquez de vous faire écraser par un vélo, mince. Il n'y a pas d'amplificateur de la voix, cette nouvelle fonction qu'il y a sur les AirPods Pro 2, il n'y a pas de volume personnalisé. Je rappelle que ce casque vaut 579€. Apple n'a pas augmenté l'autonomie, qui était déjà assez mauvaise à l'époque et qui est encore plus maintenant. Apple n'a pas amélioré la protection contre les éléments, ce qui va être... On va arriver à l'automne et à l'hiver. Ça va être sympa de retrouver de l'eau dans ton casque après une demi-heure de métro. Bref, Apple s'est contenté de changer la couleur. Après 4 ans, il y avait franchement mieux à faire, surtout quand tu vois comment, ne serait-ce que les 12 derniers mois, les AirPods Pro ont évolué. C'est surtout la comparaison entre les AirPods Max et les AirPods Pro. Apple, quand elle veut, elle peut. 579€.
Ouais, mais il y a de l'orange, par contre.
579€.
Ouais, du violet et de l'orange.
579€.
Si Apple semble avoir abandonné les AirPods Max, elle n'abandonne pas ses AirPods Pro 2. Les écouteurs vont recevoir un petit paquet de nouveautés via une mise à jour. Nicolas, ça consiste en quoi tout ça ?
Bah, c'est 3 nouveautés, toutes autour de la, toutes dans le domaine de la santé et toutes liées à l'audition, ce qui est assez logique pour des écouteurs.
Ouais.
Donc ils vont tout d'abord ajouter un test d'audition. Donc ça va être intégré directement dans l'iPhone. On pourra dire si on entend ou pas des sons et on aura ainsi une courbe à la fin. Tout ça étant certifié médicalement, disons que c'est correct. Ensuite, il y a une protection dynamique contre les bruits agressifs qui peuvent être dangereux. Une protection qui va être activée par défaut pour tout le monde. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que dès qu'on met les AirPods 2, s'il y a un son très fort ou très violent autour de soi, les AirPods vont tout faire pour le diminuer et limiter la gêne associée. Ça pourrait être utile notamment en concert, par exemple, parce qu'ils peuvent quand même retranscrire le son, mais ils le retranscriront de manière plus sûre.
Ouais.
Et enfin, pour ceux qui ont déjà perdu de l'audition, ils pourront servir comme sonotone, là encore avec des certifications que Apple a promis, même s'ils ne les ont pas encore, mais bon, voilà, ils devraient avoir tout ça quand ça sortira. C'est vrai que c'est par rapport surtout aux AirPods Max, mais même en soi, c'est quand même une longévité assez inédite pour des écouteurs Apple. D'ailleurs, les premiers AirPods Pro, on peut s'en rappeler, ils ont été un peu abandonnés dès que les nouveaux sont sortis, eux, c'est pas de chance. Mais pour les clients qui ont parié sur les AirPods Pro 2, bah, ça fait une bonne longévité, surtout qu'on n'attend pas les nouveaux avant l'année prochaine. Les rumeurs parlent d'AirPods Pro 3 en 2025. Mais c'est vrai qu'en attendant, bah, ça donne de nouvelles fonctions aux AirPods Pro 2. Et puis c'est pas bête, ça les éloigne des AirPods 4 avec isolation active. Sans ça, la fiche technique aurait été quand même assez proche. Certes, l'isolation active sera sans doute moins bonne sur les AirPods 4, comme on disait tout à l'heure, mais enfin. Quand tu regardes un comparatif, ils l'ont tous les deux, donc voilà, c'est pas mal qu'il y ait des fonctions en plus.
Apple a ensuite enquillé sur l'iPhone 16 Basic, un modèle qui est très intéressant. Comme l'année dernière, il s'agit d'une version repackagée du modèle haut de gamme précédent. Et en plus de ça, la principale nouveauté vient d'un nouveau bouton appelé commande de l'appareil photo. Nicolas, est-ce que c'est le moment de changer d'iPhone si on a un 12 ou un 13 par exemple ?
Alors pas si on aime les iPhones mini, hein. Ça, désolé Stéphane et les autres,
ouais.
Il y a toujours pas. Sinon oui, c'est une très bonne année pour les iPhones pas pro, les iPhones de base. Quand on regarde un peu la comparaison avec les pros, on se rend compte qu'ils n'ont jamais été aussi proches sans doute que cette année.
Ouais.
Ils ont tous les deux un écran OLED, il y a tous les deux la Dynamic Island, ils ont tous les deux maintenant le bouton d'action et le nouveau bouton dédié à la caméra.
Ouais.
Ils ont tous les deux une puce à 18, certes pas la même, mais globalement, c'est voilà, une puce optimisée pour Apple Intelligence, a priori avec la même quantité de mémoire vive, par exemple, donc il ne devrait pas y avoir de différence à l'usage de ce côté-là. Et puis en plus, ils ont droit, comme souvent, à des vraies couleurs, alors que les pros, bah, sont toujours tristes hein, dans ce domaine, il faut se contenter des mêmes variantes de titane. Voilà. On peut quand même dire qu'ils rappelaient qu'il manque quelques éléments. Ils n'ont pas l'écran toujours allumé, l'écran est bloqué à 60 images par seconde de rafraîchissement. Ainsi que côté appareil photo, ils n'ont que deux objectifs, il manque le téléobjectif qui reste l'exclusivité des pros. Et donc comme tu disais, il y a pro ou pas, tout le monde cette année a droit à un nouveau bouton, encore un, qui a été bizarrement nommé commande de l'appareil photo. Ça c'est son nom en français, je ne sais pas s'ils pouvaient pas trouver mieux quand même, mais enfin, peu importe. Je serais curieux de tester, de savoir si c'est vraiment utile à l'usage. En tout cas, sur le papier, c'est assez impressionnant quand on y pense. Donc, c'est non seulement un bouton physique de plus qu'ils ont rajouté, mais en plus, c'est un bouton physique très sophistiqué qui fonctionne avec le moteur haptique présent dans l'iPhone pour donner l'impression d'un clic plus important qu'il n'est en réalité, et aussi pour gérer deux niveaux. Donc, on peut appuyer à moitié, en quelque sorte, même si, a priori, on n'appuie pas à moitié, mais voilà, ça donne l'impression d'avoir un bouton en deux niveaux. Alors son rôle principal quand même, on peut peut-être l'évoquer, c'est de simplifier la photo. Donc à tout moment, on clique dessus, ça va ouvrir l'appareil photo. Et une fois qu'on est dans l'appareil photo, on reclique dessus, ça prend une photo. Voilà, basiquement. Après, il y a des fonctions plus évoluées. Donc on peut taper deux fois pour accéder à certains réglages. Après, une fois que le réglage est sélectionné, on peut glisser sur la zone de haut en bas ou de gauche à droite pour changer le zoom, par exemple, ou d'autres effets. Donc voilà, quelque chose d'assez sophistiqué, c'est bien plus qu'un simple bouton, mais on verra ce que ça donne. Les premiers journalistes, enfin les journalistes qui ont été invités, qui ont pu tester les iPhone 16, en ont parlé un petit peu, donc ils n'ont pas eu le temps de tester longuement, hein, c'est vraiment des essais de quelques minutes. Globalement, ça avait l'air positif, même si de la vie générale, ça a l'air un peu compliqué quand même, hein, les différents gestes à retenir, aussi le niveau de pression, il a l'air de falloir s'habituer un peu à comment ça marche. Je pense que c'est quelque chose qui va demander un peu de temps, un peu de faire pas mal de photos pour comprendre si c'est bien et surtout est-ce que c'est mieux que ce qu'on avait aujourd'hui. Je suis notamment curieux de savoir si en tenant l'iPhone, moi je tiens souvent l'iPhone de la main droite et du coup si la paume va pas appuyer dessus par erreur, on va voir s'ils ont bien géré ça. Et l'autre interrogation pour moi, c'est un peu les protections, les coques. Il faut savoir que sur ses propres coques, Apple a ajouté du cristal de saphir, donc qui protège le bouton sur l'iPhone. Ils en ont ajouté une couche dans la coque, rien que pour ce nouveau contrôle. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'éléments, ça m'a l'air assez compliqué. Et on verra si ça vaut le coup, quoi, et si c'était une bonne idée d'ajouter un bouton. Il faut rappeler quand même que Apple est dans une phase bouton, apparemment, parce que celui d'action, c'est l'an dernier. Donc là, ça fait deux boutons deux ans de suite. Ouais. Je me demande s'ils vont en rajouter encore un l'année prochaine, mais c'est quand même impressionnant.
Non, l'an prochain, on les enlève tous.
C'est vrai que le mouvement... je sais pas combien de temps ça va durer, mais bon.
Non,
pour l'instant, on a un bouton
de plus.
Ils sont
tactiles. Là,
ils sont tous haptiques. Ouais.
C'est ça. Ouais.
L'autre avantage de ce bouton, donc comme dit Nicolas, c'est un écran en fait. Hein, c'est une zone tactile. Donc c'est pour ça qu'il y a ce bouton intégré à la coque, puisque quand tu cliques sur la coque, ça clique aussi sur le bouton. Le grand avantage de ce bouton, c'est qu'il libère le bouton d'action.
Ouais. C'est vrai.
Et donc on va pouvoir mettre autre chose que l'appareil photo sur le bouton d'action.
On va pouvoir remettre le silencieux.
Par exemple.
Non, ça non.
Où les pères de famille un peu conservateurs vont pouvoir remettre la lampe torche.
Non, moi j'ai curieux de voir ce que je peux faire avec raccourci. Ça m'intéresse.
Oui, beaucoup. Voilà.
Ah,
ouais.
Oui. Ouais.
Ouais. Jamais testé encore.
Le clou du spectacle était évidemment l'iPhone 16 Pro qui apporte du neuf sur la partie photo et qui arrive avec une puce encore plus puissante. Face à un iPhone 16 qui s'améliore pas mal, l'annonce a tout de même pu en décevoir certains qui ne voient pas de grosse évolution par rapport à l'année dernière. Anthony, tu vas le tester. Est-ce qu'il t'intéresse cet iPhone 16 Pro ?
Comme mon patron écoute, je vais dire oui. 1 Tera, couleur naturelle. Non, mais oui, c'est sûr que si on compare avec l'iPhone 15 Pro, on va se dire, les changements sont très mineurs. Sauf que d'abord, je ne suis pas certain que ce soit tout à fait vrai. Mine de rien, la puce A18 Pro, elle est quand même vachement plus puissante que la puce A17. Ça fait 2-3 ans qu'on n'avait pas eu de vrai jump, et là, on a un saut, notamment sur la partie graphique. On va le tester dans les semaines qui viennent, mais mathématiquement, le fait qu'on ait un plus gros Neural Engine et puis le fait qu'on ait une plus grande bande passante de la mémoire Je suis à peu près capable de calculer les scores qu'on va obtenir en machine learning. Et ça va jouer son rôle. Hein. C'est quand même une année Apple Intelligence, donc ouais. Bon, c'est pas là pour rien. Le bouton de commande de l'appareil photo, les ingénieurs d'Apple, enfin, ou les gens au Marcom, vous cherchez le mot déclencheur. Déclencheur. D-E-C-L-E-N. C-H-E-U-R. Donc le bouton déclencheur, comme disait Nicolas, hein, c'est quand même une chouette nouveauté. Il sera encore plus intéressant sur l'iPhone 16 Pro dans une future mise à jour, puisqu'il fonctionnera comme un déclencheur traditionnel. On pourra faire la mise au point avec une pression intermédiaire, donc on pourra à moitié cliquer pour mettre au point et cliquer complètement pour prendre une photo. Et puis enfin, faut quand même se souvenir, on a tendance à comparer d'année en année, mais enfin, les gens maintenant laissent passer un peu plus de 3 ans entre deux téléphones, même si c'est probablement un peu plus court pour la clientèle de la gamme Pro. Donc si on se dit 3 ans, bah, ça nous fait remonter à l'iPhone 13, et même s'il est un peu plus lourd, hein, parce qu'ils ont déjà annulé les gains du titane, bah, c'est quand même une super upgrade quoi, quand on a l'iPhone 13. Ouais. En plus, cette année, comme un peu une année sur deux, on est dans une année où le Pro Max et le Pro ont la même config. Hein, une année sur deux, on a des nouveautés que dans le Pro Max, et puis l'année d'après, elles redescendent dans le Pro. Donc cette année, le Pro tout court, il a le téléobjectif x5. Donc cette année, on peut vraiment choisir selon la taille. Le seul petit bémol, c'est que le modèle Pro commence à 128, contrairement au Pro Max qui commence à 256. Alors c'est une astuce tarifaire de la part d'Apple, ça leur permet de démarrer 100 balles moins cher. Enfin, franchement, vu le prix, ils pourraient faire un effort et on commence à 256. On parle quand même d'un téléphone qui peut prendre des RAW à 48 mégapixels, peut maintenant tourner en 4K HDR à 120 images par seconde, peut enregistrer de l'audio spatial au format APAC. Je sais pas, 256 Go de stockage, ça peut être sympa. iPhone 13 Pro, j'aurais tendance à dire ouais, c'est pas la plus mauvaise année. iPhone 14 Pro, j'aurais tendance à dire attendez, parce que les rumeurs disent quand même que l'iPhone 17, ça va être sympa. Votre téléphone n'est pas à la ramasse, surtout ceux qui ont le violet, qui est quand même le plus joli téléphone qu'Apple a jamais fait. Gardez-le. 3 ans, c'est peut-être un bon rythme maintenant. 3 ans. Ouais. C'était plutôt 2 pour Apple, maintenant 3, c'est pas mal.
Nicolas, tu as suivi une keynote à 100 à l'heure pour nous offrir un résumé en direct. Est-ce que tu as l'impression qu'Apple a fait plus de remplissage qu'auparavant ? J'ai trouvé ça assez flagrant, notamment sur la partie Apple Watch Ultra, parce que du coup la montre ne change pas, où Apple a bien insisté sur tout un tas de trucs qu'on connaissait déjà bien.
Ouais, bah, on en avait parlé un petit peu au début, mais oui, c'est vrai que c'est assez étonnant. Donc, comme on disait, effectivement, le keynote de l'iPhone, c'est le plus suivi de tous. Celui de la WWDC, en comparaison, doit être beaucoup moins suivi. Donc, effectivement, il faut bien rappeler les nouveautés. Après, j'ai trouvé qu'ils l'ont fait... Là, je parle d'Apple Intelligence en particulier. Je trouve qu'ils l'ont fait de manière assez lourde avec Craig Federighi, qui d'habitude n'est pas présent dans les keynotes iPhone. Alors, pourquoi pas ? Mais je trouve que, globalement, il a refait la même chose en accéléré. Il y avait quelques ajustements, etc. Mais globalement, il a repris tout son fil et puis il a expliqué tous les avantages. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que les iPhone 16 vont sortir sans Apple Intelligence, pas que en Europe, parce que nous, on est un peu particulier, mais même aux États-Unis, ça ne sera pas encore là. Donc c'est vrai qu'il y avait un côté étrange d'insister autant sur une fonction qui va venir et qui, de toute manière, viendra plutôt tout au fil des prochains mois. Donc ça, c'est le premier aspect. Effectivement, ça faisait un peu répétitif, surtout pour nous qui suivons de près tous les keynotes, mais je sais pas, j'ai l'impression que le côté est trop long. J'ai vu plusieurs fois la remarque dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'ils ont un peu... il est un peu lourd, ce keynote. Je pense qu'ils auraient pu le réduire un peu. Et comme tu disais, effectivement, les segments sur l'Apple Watch Ultra, alors que c'est même pas une nouvelle Apple Watch Ultra, c'était assez bizarre. Hein. Ils ont fait pareil avec les AirPods Max, d'ailleurs. C'était un peu plus rapide, les AirPods Max, mais c'est vrai que c'est la même chose. Il y avait juste des nouvelles couleurs et l'USB-C. Et là, c'est dans le segment des AirPods. On parle des tout nouveaux AirPods 4. Donc là, évidemment, ça a toute sa place. Et puis, on passe après là-dessus. On a envie de dire, mais... Pourquoi c'est dans le keynote, ça ? Pourquoi c'était pas à la fin sur la boutique et voilà, ils sont en USB-C ? Enfin, il y a pas besoin. Je trouve qu'au contraire, ça les a desservis même d'insister là-dessus. Donc voilà. Après, je pense que le côté remplissage comme ça, c'est surtout nous qui le ressentons. Effectivement, il faut pas oublier que la majorité des gens déjà regardent pas forcément les keynotes, voire sans doute pas. Et puis ils voient des extraits après ou des bouts et voilà, ils découvrent des trucs tout le temps.
Oui, ouais, c'est vrai. Après, ouais, c'est vrai que cette année, j'ai l'impression que ce keynote a bien fait la part belle à beaucoup de fonctionnalités qui ne seront pas disponibles avant un moment. Anthony, c'est nouveau ça chez Apple ?
De moins en moins. mais c'est vrai que là, on a fait un bond en avant ou en arrière, je ne sais pas comment il faut le dire. C'est vrai que depuis quelques années, il fallait attendre le printemps, la pointe 3, la pointe 4 quoi, du système. Pour avoir la totalité des fonctionnalités présentées, alors à l'automne pour le public, à l'été pour nous. Là, on a presque un calendrier des fonctions qui vont être échelonnées tout au long de l'année. La mise au point avec le bouton de commande de l'appareil photo, les notifications d'appli du sommeil, le test auditif avec les AirPods. Enfin, on a comme ça, je sais plus, j'ai commencé à faire la liste, mais on en a au moins pour 6 à 8 mois de trucs qui vont parler. Alors bon. Pourquoi pas? Comme disait Nicolas, Apple a consacré un bon quart d'heure à Apple Intelligence. Alors, il y a un public qui regarde ou qui ne regarde pas le keynote. Il y a un public de journalistes qui ne sont pas aussi spécialisés que nous, qui avaient besoin d'être briefés sur le sujet ou d'être briefés tout court sur le sujet pour qu'ils puissent, là, j'ai entendu cette semaine dans la presse généraliste, les journalistes essayent de parler d'Apple Intelligence. C'est une catastrophe. Heureusement qu'il y a des journalistes techno, mais ça aurait été encore pire si Apple avait pas fait une session de rattrapage. C'est vrai que c'est un peu chagrinant parce que les fonctions seront pas disponibles avant longtemps, et pas uniquement dans l'Union européenne. L'Union européenne qui d'ailleurs ne sait pas ce qu'Apple lui reproche sur ce coup.
Apple et pas dit, un mot pendant le keynote. Hein.
Non, pas un mot. Alors on sait par ailleurs que Apple et Bruxelles sont en train de discuter là-dessus. C'est une affaire d'interprétation du DMA et du DSA, et Apple veut être sûr de pas avoir de soucis. Donc c'est plus de la précaution de la part d'Apple, mais c'est vrai que même pour les Américains, ça pouvait être frustrant parce que ce truc ne parle qu'anglais. Les trois quarts des fonctions de toute manière ne viendront que plus tard. Mais enfin, l'espagnol, deuxième langue la plus parlée des États-Unis, le chinois, troisième langue la plus parlée des États-Unis, le français, quatrième langue la plus parlée des États-Unis, et accessoirement, deuxième langue la plus parlée au Canada, c'est des langues qui viendront en 2025, et pas tôt dans l'année en 2025. Donc il y a quand même du monde qui va devoir attendre très très longtemps. Les fonctions de recherche visuelle, on a Phil Schiller qui, après le keynote, explique que le bouton de contrôle, commande, déclencheur de l'appareil photo, c'est pas uniquement un déclencheur, c'est aussi et peut-être surtout un raccourci pour lancer les fonctions de recherche visuelle. Quand on laisse le doigt appuyer sur ce bouton, ça lance une interface
Google Lens.
C'est ce que j'allais dire, qui est très similaire à ce que fait Google avec Google Lens. Ça, c'est pareil, ça sera pas disponible avant des mois et des mois et des mois. Je me souviens que pendant des années, Nicolas d'ailleurs aussi, on s'est foutu de la gueule des boîtes qui annonçaient un produit à un CES. Et le produit sortait au CES d'après. Apple fait pareil. Alors, si on veut voir le verre à moitié plein, puisque tu m'as donné que des questions négatives pour me faire hurler, et j'ai envie de finir sur un point positif. Le point positif, alors d'abord pour nous, c'est qu'on va pouvoir perler des articles toute l'année, donc c'est super pour tenir le lecteur en haleine, mais pour le lecteur aussi, ou pour l'utilisateur aussi, quelque part, il va redécouvrir des nouveautés au fil de l'année. On a quand même eu beaucoup ces dernières années, des paquets de nouveautés, et les gens s'en rendaient compte que 3 ans après, parce que il fallait fouiller. En fait, si tu leur montres pas la nouveauté, ils s'en rendent pas compte. Là, quelque part, que Apple te fasse des paquets plus petits à chaque release ou presque, avec, en plus maintenant ils ont tendance à te les présenter avec des panneaux là, qui prennent tout l'écran au premier démarrage de ton téléphone. Pourquoi pas? Si on veut vraiment être très gentil et donner ça comme un point positif, on peut le tourner comme ça.
Eh bien, merci à vous deux pour ce débrief du grand keynote de rentrée d'Apple. On va maintenant attendre de recevoir les produits pour se faire un avis. Les premières livraisons sont prévues pour le 20 septembre, soit vendredi prochain. Anthony, merci d'être venu, à bientôt.
Salut!
Nicolas, merci aussi, à la prochaine.
À la prochaine.
Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Kernel Panic. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye.